Radio Campus,
Lille,
106,6
FM.
Contre-culture,
Random.
Random,
émission radiophonique,
un dimanche sur deux,
19-20h.
De l'information,
de 19h à 20h,
Radio Campus,
Lille. C'est Random,
106,6
MHz.
Hacker
du groupe Dégénéré Sciences Libres
sur Radio Campus
un dimanche sur deux.
Random, l'émission préférée des
N-Tech.
Oh, comme c'est fort.
Singing the new music and in the bathtub, all summer.
You made peace, you dance.
expand your sound. You make love to metal, you redefine. Yeah, you abuse the travel. You make beats, you dance, you keep on the ground. And you know you want to fall. Yeah, you bend your sound. You make love to metal, you redefine. Yeah, you abuse the travel. You make beats, you dance, you keep on the ground. And you know you want to fall. Yeah.
Bonsoir. Voilà, bienvenue sur Radio Campus pour ceux qui nous rejoignent. Donc c'est Random, ensemble pour une heure. C'est la 12e émission paire, donc émission à caractère plutôt non technique pour le développement. Donc voilà, et aujourd'hui, nous sommes deux.
Eh oui, que deux. Quelle honte, on est lâchés par tous les copains.
Voilà.
On est enfoiré.
Donc bah, DB.
Oui, présent.
Voilà, et Martigana Technique.
Tout à fait, qui s'auto-présente.
Qui s'auto-présente, tout à fait.
Putain, on a pas le choix. On va arrêter les blagues de merde. On va passer peut-être au...
Ouais, je vous annonce tout de suite ce qu'on va voir ensemble pendant une petite heure. On vient de vous passer une piste musicale, en fait, parce qu'on n'était pas vraiment prêt du fait que l'émission, juste avant, on se chevauche. Et, voilà, donc on vous a passé de Binard Pilot, c'est Bend, sur l'album You Can't Stop Da Funk.
C'est vrai, on a encore passé du Binard Pilot.
Voilà.
Putain.
Avec un titre, je sais pas, vous avez remarqué, un titre quand même pour faire la liaison entre l'émission d'avant, You Can't Stop Da Funk.
Yeah.
Bon, voilà.
Et oui, l'émission Soul and Funk, enfin We Got the Funk plutôt, et c'était la première fois qu'il faisait son émission tout seul. Alors, ben donc on lui souhaite la bienvenue sur Radio Campus. Entre nouveaux, il faut se soutenir.
Voilà, nous aussi, on est nouveaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans les news donc, de l'appel à la contribution de FRAC numéro 67. On verra aussi l'État d'Australie du Sud qui interdit les commentaires anonymes sur les élections locales, élections politiques. On verra aussi le plan de l'armée américaine sur la menace que peut représenter WikiLeaks vis-à-vis du gouvernement et notamment de l'armée américaine, publié sur WikiLeaks.
Normal.
Voilà, on refera un petit tour du côté de Google en Chine.
Le feuilleton Google en Chine.
Feuilleton Google en Chine, voilà. Et on ira jeter un petit regard indiscret dans le carnet de santé de l'algo RSA. On va voir un petit peu tout ça. Es-tu malade ou pas
de l'algo RSA. Excellent. Bah donc on va commencer par... Oui, non, puis on va peut-être faire un développement aussi après.
Ah oui,
on va peut-être pas parler que de news
pendant voilà, donc après, sujet non technique. Donc on va parler de l'histoire un peu...
Du mouvement hacker.
Du mouvement hacker, voilà, tout à fait. Et ensuite, ce sera l'heure de l'agenda.
Et oui, un agenda encore assez fourni, quoique moins local que d'habitude. Alors, bon, on commence par les news, allons-y. Donc alors, le 15 mars dernier, on a eu une grande surprise, qui était eh bien donc l'appel à contribution du numéro 67 du mythique magazine FRAC, qui est donc paru le 15 mars, pour nous expliquer que eh ben jusqu'au qu'on peut présenter, qu'on peut soumettre un article donc au FRAC staff jusqu'au 15 juin pour une publication qui aura lieu le 11 juillet prochain, c'est-à-dire pour donner quelque chose à lire à aux habitants de l'île de Pâques pendant leur éclipse solaire qui aura lieu ce jour-là, une éclipse solaire qui sera totale à l'île de Pâques, paraît-il. Et donc, alors qu'est-ce que c'est que FRAC ? FRAC, c'est un magazine qui se dit donc magazine pour les hackers, par les hackers, qui a été fondé en 85. C'est l'un des deux grands piliers du mouvement hacker avec, j'oserais dire, le magazine 2600. Donc c'est un magazine électronique publié en anglais de manière assez irrégulière. Et ces derniers temps, c'est à peu près un numéro par an. Il y a une équipe qui s'appelle le FRAC staff qui s'en occupe. Alors le FRAC staff a changé pendant les années. Jusque là, c'était pour les trois dernières éditions, je crois deux ou trois dernières éditions, c'était le Circle of Lost Hackers, c'est-à-dire le cercle des hackers disparus. Et puis ben là, donc FRAC numéro 67, ce sera donc un nouveau FRAC staff. Ça fait super super plaisir de voir que FRAC continue. Un magazine fondé en 85, quand même, et qui a publié un certain nombre d'articles qui sont restés mythiques pour le mouvement hacker, que ça soit dans les années 80-90, des choses qui ont été publiées par Bruce Sterling dans Frac. Donc Bruce Sterling, un auteur qu'on ne présente plus, hein, un des deux grands leaders de la mouvance cyberpunk, littérature américaine. Et puis un article par exemple de Aleph Wan, dont on va reparler tout à l'heure, dans le Frac 49, sur l'exploitation des failles de sécurité de type débordement de tampons, des choses comme ça et tout. Donc des articles techniques, des articles non techniques, un peu anarchistes, un peu bidouillage, un peu foutage de gueule de l'autorité, etc. Et donc ça fait super plaisir. Et vous avez donc jusqu'au 15 juin pour soumettre vos articles. Et la publication aura lieu le 11 juillet, je pense qu'on vous en reparlera. Ça nous fera un sujet à parler pendant l'été. Quand on sera tous en vacances, on pourra parler de Frac. Autre news qui a été annoncée. Alors, on continue sur la série des lois liberticides post-11 septembre et du délire sécuritaire dans lequel on vit, dans lequel les Américains nous ont précipité depuis cette date fatidique. Alors, l'Australie du Sud, donc c'est un des états de l'état australien, interdit depuis le 6 janvier les commentaires anonymes sur Internet concernant les élections locales. Alors, ça concernait notamment les élections qui ont eu lieu le 20 mars dernier. Alors l'idée c'est que du coup maintenant vous pouvez plus, enfin les citoyens australiens qui habitent dans l'état d'Australie du Sud ne peuvent plus poster de commentaires anonymes concernant les élections locales. Donc ils sont obligés de mettre leur nom et prénom, et les hébergeurs sont obligés de conserver les données pendant 6 mois au moins. Donc c'est génial, c'est encore une restriction en Australie, sachant que Internet est déjà filtré en Australie, un petit peu sur le modèle de ce qui se fait en Chine et de ce qui va se faire en France, de ce qui a été voté par la loi LOPSI. Donc ils sont très en avance sur nous, enfin ils sont un peu en avance sur nous là-dessus, et là ils prennent encore plus d'avance sur la censure d'Internet et la casse des libertés fondamentales et notamment la liberté d'expression, sachant qu'au niveau fédéral en Australie, les commentaires anonymes sont toujours autorisés. C'est juste dans l'état d'Australie du Sud. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la Justice, donc Michael Atkinson, il n'est pas tout à fait inconnu des personnes qui défendent la liberté d'expression, parce que c'est notamment lui qui a défendu l'interdiction des films et des jeux vidéo pour adultes sur le territoire australien. On voit un peu quel genre d'homme va pousser pour que les libertés fondamentales et notamment la liberté d'expression soient censurées. On voit un peu les gens à qui on a affaire en face.
WikiLeaks.
Alors allons-y. WikiLeaks, donc un site qu'on aime bien au sein du groupe et puis dont on parle quand même pas mal dans l'émission. WikiLeaks, donc c'est un site qui s'est fait spécialité de publier des trucs impubliables, notamment des documents secrets de l'armée, etc., et tout, et qui est donc monté et soutenu par des journalistes, des dissidents chinois, des journalistes qui veulent vraiment faire leur travail de contre-pouvoir, etc., et qui donc publient sur Internet en conservant l'anonymat et en faisant tout pour conserver l'anonymat de leurs sources, et qui d'ailleurs vont publier des choses, des PDF, des documents comme ça, soit classés secret défense, etc., soit tout bonnement des trucs un petit peu rigolos à publier, mais pour lesquels il faut avoir un certain courage politique. Et donc, ces derniers jours, ils ont publié le plan de l'armée américaine contre WikiLeaks. C'est-à-dire que voilà, l'armée américaine a écrit en 2008 un document interne concernant WikiLeaks, et c'est WikiLeaks qui le publie. C'est assez rigolo. Donc c'est un document qui date de 2008, qui a été rédigé par le service de contre-espionnage de l'armée américaine. Et qui s'inquiète en fait, enfin, et qui considère en fait WikiLeaks comme une possible menace pour l'armée. Alors, possible menace dans le sens où, ils font fuiter des informations, et ces informations peuvent être récupérées par des services de renseignement étrangers. Donc ça fait un peu chier, sauf qu'ils oublient de dire que WikiLeaks ne publie pas que sur les services de renseignement américains, mais publie également sur les services de renseignement étrangers aux États-Unis. Donc bon, c'est un argument qui est un petit peu moyen. Mais également l'autre argument qui consiste à dire que ben, c'est un risque de manipulation, d'intoxication et de propagande de la part de services de renseignement qui veulent du mal à l'Occident chrétien. Bon alors voilà, ça veut dire complètement que l'armée américaine considère que WikiLeaks c'est les guignols et qui publie tout et n'importe quoi sans aucun contrôle, sans aucune conscience politique, sans aucun réel courage et tout et tout. Et alors qu'en fait c'est des journalistes qui font simplement leur boulot. Pour un coup qu'il y a des journalistes qui font leur boulot, on va quand même pas essayer de critiquer leur démarche, mais voilà, l'armée américaine c'est clairement ce qu'elle fait. Et donc pour eux la solution c'est de décrédibiliser WikiLeaks, notamment en recherchant les personnes qui leur filent des renseignements, qu'ils appellent des taupes. Bon voilà, des taupes. Bon, en général une taupe c'est quelqu'un qui donne des renseignements pour faire du mal, mais là bon bah c'est plutôt des renseignements qui font du bien à la démocratie tout du moins. Et donc rechercher les taupes, et puis les traîner en justice, les juger et les faire condamner. De manière en fait à briser la confiance, à briser le puisque bon WikiLeaks ça marche sur la confiance, c'est-à-dire que ils publient des trucs et tout, et nous on leur fait confiance sur la provenance des documents, hein, parce que c'est des documents réels et pas des canulars. Donc eux ils veulent casser un petit peu cette confiance-là, de manière à faire en sorte que WikiLeaks ne soit plus lu, et donc que WikiLeaks ne serve plus à rien. Comme ça ils pourront continuer leur petite magouille dans leur coin. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que on soutient WikiLeaks, qu'il y a beaucoup beaucoup de monde impliqué dans l'histoire, pas seulement simplement les journalistes, mais tous ceux qui suivent, toutes celles et ceux qui lisent les documents qui sont publiés sur ces sites-là, et qui ont bien conscience que quand même l'armée, c'est pas tout à fait une source de renseignement optimale, notamment en termes de démocratie. Voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire sur WikiLeaks.
Voilà.
Et alors après, c'est encore moi qui parle.
Google en Chine.
De toute façon, on n'est que deux, parce que... voilà. Alors, Google en Chine, on continue un petit peu le feuilleton des tribulations d'un moteur de recherche pas chinois en Chine. Et donc, lundi dernier, Google a annoncé que les requêtes vers le site google.cn sont désormais redirigées vers le site google.com.hk. Donc, et ce depuis le lundi 22 mars. Alors, google.com.hk, c'est le Google de Hong Kong. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hong Kong, qui est une ancienne colonie britannique qui a été rétrocédée à la Chine en 97, depuis 97, Hong Kong dispose de sa propre constitution. En fait, l'adage, c'est un pays, deux systèmes. C'est-à-dire qu'il y a Hong Kong, c'est la Chine, mais il y a deux systèmes. Il y a le système chinois et il y a le système chinois de Hong Kong, qui n'est pas tout à fait pareil, puisque Hong Kong, c'était une grosse place financière, etc. C'était aussi une grosse place de la mafia qui n'était pas vraiment bien tenue par les Anglais, donc les mafieux faisaient ce qu'ils voulaient. C'était aussi. De toute façon, le cinéma de Hong Kong, il n'est pas là pour rien. Les premiers films de John Woo, etc., il raconte une réalité de l'époque et du lieu, et donc Hong Kong a quand même conservé une certaine liberté, notamment celle de pas avoir l'internet censuré. Donc toutes les requêtes vers google.cn sont redirigées vers le google.com.hk, ça marche même depuis l'extérieur de la Chine, vous pouvez essayer chez vous, vous serez redirigé vers le Hong Kong, vers le Google de Hong Kong. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google essaye de s'affranchir un petit peu de cette histoire de censure, d'autocensure, imposé par le gouvernement chinois en redirigeant bêtement les requêtes. Ça veut dire que le site de Google de Hong Kong est méchamment surchargé, mais bon, il tient encore debout pour l'instant. Et ça place également la censure de Google, dans cette histoire de censure de Google, et la balle est maintenant clairement dans le camp de la Chine, à savoir que il lui reste toujours la possibilité de censurer bêtement Google. En faisant ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire en censurant les requêtes, puisque tout passe par le grand firewall de Chine, la grande muraille virtuelle de Chine, qui filtre toutes les requêtes, et ils peuvent continuer à le faire, et voilà. Donc, ça change pas grand-chose finalement, mais Google trouve quand même une solution qui lui permet de rester dans la légalité, de rester en Chine, mais en arrêtant de censurer. Et en obligeant le gouvernement chinois à censurer lui-même et à faire son sale boulot lui-même.
Tout à fait. Voilà, donc carnet de santé d'RSA Voilà, en fait, j'ai vu un article qui était, ça disait, l'algorithme RSA 1024 n'est plus si sûr que ça. Donc pourquoi ? Déjà, qu'est-ce que c'est RSA ? Donc ça veut dire Reversed Shamir-Adelman. C'est un algorithme asymétrique à cryptographie.
C'est un cryptosystème, un truc qui permet de chiffrer des communications et de les rendre illisibles pour quiconque ne connaît pas la clé de déchiffrement.
Voilà, avec une clé publique, une clé privée. Et donc voilà, donc, en fait c'est des chercheurs qui se sont rendus compte qu'en faisant varier légèrement l'alimentation du système qui hébergeait donc la clé privée, celle que personne ne doit connaître donc, il y avait des petites failles en fait, des petits morceaux qui fuitaient vers le client, dans la communication avec le client. Et en récupérant tous ces petits morceaux là, on arrivait à retrouver en fait, à reconstituer la clé privée. Donc voilà, donc ils ont fait... une centaine d'heures environ, ils arrivent à récupérer une clé privée.
Sur quel type d'appareil ?
Voilà. Alors, c'est vague. C'est bien sûr, il faut contrôler l'alimentation. Donc, quel type d'appareil ? Là, on imagine bien que pour tout ce qui est bancaire, etc.,
d'accord.
Ça ne s'appliquera pas. Parce que forcément, il faut contrôler l'alimentation. Donc, ce serait plus pour appareil portable. Donc, l'application est restreinte.
Ouais.
Ça, voilà, c'est des cas bien particuliers. En plus, c'est quelque chose de très précis. Je veux dire... Enfin, faire varier l'alimentation, c'est vraiment...
Il faut du matos de laboratoire,
il faut
etc.
du matos de laboratoire, il faut des conditions, et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent, voilà, on peut récupérer la clé privée, mais surtout, ils montrent aussi qu'en utilisant une technique cryptographique connue nommée salting, c'est salage en fait.
Oui, c'est introduire un grain de sel.
Voilà, ouais, on change l'ordre aléatoirement des bits qui vont être transmis. Et rien que utiliser ça, en fait, ça rend inefficace leur système. Donc voilà, donc moi je trouve que RSA se porte pas si mal que ça, en fait.
Bah non.
Puisqu'on a une solution de le rendre encore plus perméable.
Bah, de toute façon, si RSA tombe, les cartes bancaires.
Ouais, voilà, RSA c'est les cartes bancaires françaises, c'est tous les sites commerciaux, etc.
Ouais, SSL, etc. Il y a énormément de choses qui sont basées sur cet algo, donc un jour où il tombe, on sera au courant quand même.
Voilà. Bon alors il y a plusieurs niveaux aussi de RSA. Là on parlait du RSA 1024.
C'est parce que c'est la taille de la clé de 1024 bits.
La taille de la clé. Voilà. Voilà, on peut peut-être faire une petite analogie avec les attaques par force brute pour se rendre compte un petit peu. Là les attaques par force brute sur RSA, donc c'est la factorisation de nombres entiers. Le nombre entier, là par exemple 1024, et plus on augmente ce nombre, donc 2024, et plus la difficulté de...
On a un énorme nombre et on doit ce gros nombre et le résultat d'une opération mathématique type multiplication, et c'est en fait la multiplication, c'est la mise en exposant, je crois.
Ouais,
c'est la mise en exposant pour RSA, et en fait donc c'est x puissance y et il faut retrouver x et y, sachant que x et y sont premiers.
Ouais, tout à fait.
Et donc vous avez un énorme nombre qui fait plusieurs dizaines de chiffres. Et faut retrouver. Vous savez que ce nombre c'est le résultat d'une opération mathématique, et vous connaissez l'opération mathématique et il faut retrouver les premiers nombres. Donc c'est extrêmement compliqué quand les nombres sont très très grands et que vous avez énormément de possibilités.
Ouais.
C'est de l'ordre de un temps de calcul de plusieurs dizaines d'années pour déchiffrer un message. Donc c'est hors de portée à l'heure actuelle. Pour l'instant, des techniques cryptographiques qui nous permettent d'être de sécuriser des communications, des messages, des communications bancaires, etc., en se mettant à l'abri techniquement et mathématiquement d'une quelconque attaque sur le chiffrement des données.
Voilà. Voilà pour ce qui est de ça. Une petite pause musicale ou la petite surprise ?
La petite surprise, une petite surprise, on dit rien dessus et puis on vous laisse écouter. Et puis on vous explique après ce que c'est.
Voilà, on se retrouve tout de suite après.
Le point son. Monsieur le professeur agrégé Jean-Claude Pagès, vous êtes conseiller scientifique d'IBM. On parle toujours de mémoire des ordinateurs et des cerveaux artificiels. Pourquoi ?
Pour un informaticien, la mémoire, c'est un dispositif qui permet de stocker une information à laquelle on pourra faire appel ultérieurement. Mais il s'agit d'un dispositif technologique, c'est-à-dire qu'on parle plutôt d'une boîte, d'un contenant, et non pas d'une faculté, comme pour la mémoire humaine. Pour l'informaticien toujours, les informations stockées sont codées de façon univoque. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et le caractère du souvenir sur le plan psychologique est tout à fait différent. Il n'y a pas la surdétermination en informatique que l'on retrouve en psychologie ou en psychanalyse. La mémoire humaine, d'autre part, oublie. On a même pu écrire que tous les êtres biologiques, depuis le ver de terre jusqu'à l'homme, oubliaient selon une loi analogue. Alors que la mémoire de l'ordinateur est en quelque sorte une mémoire totale. L'ordinateur n'oublie que si le programme lui demande explicitement d'oublier. En somme, les analogies entre la mémoire de l'ordinateur et la mémoire humaine sont vraiment très superficielles et peuvent être illusoires. On peut se demander si un ingénieur aurait intérêt à voir comment fonctionne la mémoire humaine. On pourrait se demander aussi si un psychologue pourrait tirer parti des travaux sur les mémoires artificielles. Il y a sûrement un bénéfice réciproque que peuvent tirer l'un de l'autre le psychologue et l'informaticien. Et je ne pense pas que ce bénéfice se situe au niveau de la technologie des mémoires. Pour l'ordinateur comme pour l'homme, la mémoire est une base de travail. C'est la manière dont elle est utilisée, l'intelligence en ce qui concerne l'homme, et le software en ce qui concerne l'ordinateur, qui représente l'élément le plus important.
Vas-y, je t'en prie.
Oh, bon, alors voilà, de retour donc dans Random. On vient de vous faire une petite blague qui nous a été offerte donc par l'émission Bricolage pour tous, qui passe donc du lundi, qui passe le lundi de 19h à 20h. Tu as peut-être le jingle.
Ouais, le jingle, c'était le poinçon, c'est le tout début en fait.
Tu l'as passé,
au début.
Passé,
ouais.
D'accord.
Donc jingle de 7 secondes, très court.
C'est donc une séquence traditionnelle de l'émission Bricolage pour tous, qui s'appelle donc le poinçon, et dans laquelle il passe un petit peu des documents comme ça. Alors d'habitude, il passe des trucs de médecine, sur des vieux vinyles des années 60, des trucs de médecine, notamment sur la cardiologie, et a priori il va parler des maladies vénériennes par la suite. Et donc voilà, donc là c'était un document sonore.
C'est information programmée, série audiovisuelle, je vous donne les références. Hein. Série audiovisuelle 4, donc sur la mémoire. Reportage réalisé avec le concours du professeur Lhermitte du CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il y a plein de monde, hein. Il y a plein de docteurs que je ne vais pas tous nommer, réalisé par le docteur Pierre Herrmann. Alors l'année précise, elle n'est pas exactement connue, apparemment les premières références, ce serait septembre 69.
Donc voilà comment en 69 on parlait de l'informatique dans les trucs de pub pour des médicaments,
voilà.
Sur des vinyles, mesdames et messieurs.
Le médicament c'est l'hydro... Sarpan 711.
L'hydrotétranocannabinol.
Voilà, donc c'est un médicament sur le déclin vasculaire et physique.
Voilà. Donc voilà, après ce petit piratage de notre émission par l'émission Bricolage pour tous sur Radio Campus chaque lundi de 19h à 20h, on va parler, on va faire un petit dossier sur l'histoire du mouvement Hacker. D'où la petite blague d'un petit document qui date de 69. Et on va parler un petit peu de l'histoire de la contre-culture hacker et du mouvement hacker. Alors, en commençant par une petite chose, d'abord, hacker, qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce qu'on a commencé à voir apparaître ce terme? Alors, la première chose, le terme hacker, il signifie quoi? Hacker, ça signifie hacheur, enfin, hacheur, tailleur de bois, hacheur de bois. Étymologiquement parlant, c'est un mot qui vient du vieil anglais, issu du jargon des bûcherons, et qui signifie littéralement hacheur de bois. Le hacker, en fait, c'est celui qui produit de petits objets sophistiqués à partir du bois qu'il coupe. C'est entre guillemets celui qui bidouille sa matière première. Donc la langue anglaise a conservé l'usage du mot dans ce sens, c'est-à-dire que c'est un mot un petit peu désuet, qui était tombé en désuétude et tout, un mot du vieil anglais et tout, qui a été remis au goût du jour à partir, enfin la première fois qu'on a commencé à le revoir apparaître dans des documentations relatives aux nouvelles technologies, ben c'est en 1959, dans le jargon du Tech Model Railroad Club. c'est-à-dire donc le club de comment dire de modélisme ferroviaire du MIT, donc du Massachusetts Institute
of Technology,
qui se trouve du côté de Boston aux États-Unis. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est des étudiants et des étudiantes qui dans un esprit un petit peu potache étudiant maintenait en fait un club de modélisme, et il faisait un certain nombre de petites blagues, par exemple démonter une voiture de police complètement et puis la remonter sur le toit d'un immeuble du campus, donc des petites choses comme ça. Et donc parmi ces étudiants et ces étudiantes, il y avait un certain nombre d'informaticiens. Et donc le terme hacker est arrivé là. Le terme hacker, pourquoi est-ce qu'il arrive là ? Ben, tout bêtement parce que dans les années 50-60, on commence à voir apparaître dans l'informatique, l'informatique commence à s'imposer comme science, comme discipline scientifique par rapport aux autres sciences, c'est-à-dire que c'est plus vraiment une branche des maths, c'est plus vraiment une branche non plus de l'électronique, c'est quelque chose qui devient un petit peu séparé de ces domaines-là, qui commence à produire ses propres résultats et des résultats utilisables par les autres sciences. Donc c'est devenu vraiment une discipline scientifique à part entière. Les informaticiennes et les informaticiens cherchent donc un terme un petit peu pour se distinguer des matheux, des physiciens, des électroniciens. Et puis en fait ils se posent un peu la question de savoir ce qui les différencie de ces autres disciplines. Et ils se rendent compte que globalement, ce qu'ils font, c'est que ils sont dans la méthode scientifique, c'est-à-dire on fait des tests, on essaye des trucs, on a un problème donné, on suppose une hypothèse, qui est peut-être valide, qui l'est peut-être pas, on n'en sait rien, donc on fait des tests, on met en place des protocoles expérimentaux, on fait des expériences. L'expérience marche pas, donc on la recommence, ceci, cela, et on essaye d'avoir une certaine rigueur dans la démarche. Et puis, à la fin, on invalide l'hypothèse de départ, ou bien on la valide. Si on la valide, c'est cool, on a résolu le problème. Si on n'a pas validé l'hypothèse de départ, on recommence avec une autre hypothèse, en sachant qu'on affine un petit peu ses connaissances, puisque on a fait des tests, on a fait des expériences, et au fur et à mesure de refaire les expériences, on finit par avoir une connaissance un peu plus importante des données du problème. Et au final, on espère pouvoir le résoudre comme ça, en y allant à tâtons, en fait. Et dans l'informatique, très clairement, c'est de la bidouille. On a un problème, on voudrait un programme qui fasse ça, ça et ça, qui le fasse dans telle condition, en prenant en entrée telle donnée et qui ressort telle autre donnée du programme. Et au départ on essaye, on suppose un truc, tiens je vais faire comme ça pour résoudre ce problème, on met en place un algorithme, donc une solution mathématique ordonnée, donc des commandes les unes après les autres, jusqu'à avoir une solution du problème, puis on n'y arrive pas, on réessaye et tout, tiens tel truc ça marche pas, tiens l'ordinateur là il fait n'importe quoi, tiens c'est pas normal, donc en gros pour l'informaticien ou l'informaticienne c'est vraiment de la bidouille. D'où ce terme un peu désuet de hacker qui arrive. Et en fait, le mot hacker, il devient donc le marqueur identitaire de cette première génération de scientifiques. Enfin, de cette première. C'est pas la première génération d'informaticiens, mais c'est en tout cas la première qui a des machines valables, pas des machines expérimentales, et qui commence à vraiment programmer, à vraiment créer des programmes. Hacker comme bidouilleur. Et comme marqueur identitaire de cette génération des années de la fin des années 50 et du début des années 60. Alors, y a en fait donc dès le départ des années 60 une éthique qui apparaît. Pourquoi ? Parce que il faut quand même formaliser un petit peu ce terme-là, parce qu'on est dans un milieu scientifique, et parce que dans ce milieu scientifique, on aime bien la rigueur, on aime bien les choses qui soient bien posées, bien formelles. Et donc, Stephen Levy propose, dans les années 60, une éthique hacker qui fait globalement 5 points. 5 points que je vais citer maintenant, alors je vais les citer en français, je vais pas les citer en anglais, et qui constitue l'éthique hacker. Alors le premier point, c'est que toute information est par nature libre. Le deuxième point, ne pas se fier à l'autorité, promouvoir la décentralisation. Troisième point, les hackers peuvent se juger par leurs prouesses, non par d'autres hiérarchies sociales. Entre parenthèses, ce qui permettra à un jeune prodige d'une dizaine d'années de rejoindre le groupe. Quatrième point, art et beauté peuvent être créés avec un ordinateur. Et cinquième point, les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie. Et là, on retrouve en fait un petit peu tout ça, notamment cet axe de liberté de circulation de l'information, et notamment également celui sur l'autorité, ne pas se fier à l'autorité, promouvoir la décentralisation. On voit un petit peu en filigrane également cette idée de protection de la vie privée qui va apparaître. Également le côté un petit peu technophile. Les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie, savoir que à l'époque, on est quand même à l'époque de la bombe, etc., de l'existentialisme. On se pose pas mal de questions sur la science, etc., et sur la place de la science dans la société, sur la responsabilité des scientifiques quant aux atrocités générées par la science et par la technique. Et là, on arrive avec un mouvement qui est volontairement technophile, ouvertement technophile, mais qui en même temps se pose énormément de questions, c'est-à-dire que c'est pas un usage consumériste et joyeux de la science, et une confiance aveugle en la science. On sait que la science et la technique servent des intérêts, et qu'elles servent les intérêts du capital et du contrôle, mais en même temps, elles peuvent être des armes d'émancipation individuelle. Et le mouvement hacker est très très attaché à ces, dès le départ, à ces valeurs-là. Alors, c'est des valeurs qui vont s'exprimer notamment forcément qui sont très très liées à la science et à la technique, mais pas liées stricto sensu à l'informatique en elle-même. Et notamment, le mouvement hacker, ces idées-là, en fait, on voit ne pas se fier à l'autorité, c'est pas tout à fait une notion scientifique. En fait, c'est parce que dans les années 60 aux États-Unis d'Amérique, il y a un profond mouvement de génération. Toute cette génération qui n'a pas connu la guerre, qui est née après la guerre et qui commence à avoir 18, 19, 20 ans, elle remet en question la morale, la morale ancienne. Et ça se passe notamment dans le mouvement beatnik, dans le mouvement hippie. En fait, le mouvement hacker, il est là. Il est l'agrégation des nouvelles perceptions du monde issues de la science, que ça soit l'informatique, que ça soit la cybernétique, que ça soit la chimie, etc., etc. Et puis, donc, l'agrégation des nouvelles, des nouvelles perceptions du monde issues de la science, et puis des contre-cultures américaines, notamment de la contre-culture beatnik et de la contre-culture hippie. C'est l'agrégation de ces deux trucs-là, donc un état d'esprit un petit peu libertaire et individualiste et influencé par les drogues, notamment le LSD, le mouvement psychédélique, etc., par la musique, rock, par d'autres façons de créer de l'art et également de créer de l'information. Je pense au mouvement Free Press, par exemple. On parle des licences Creative Commons, mais le mouvement Free Press dans les années 60, c'était des fédérations de journaux qui autorisaient entre elles, entre journaux d'une même fédération, qui permettaient la réutilisation de contenu. C'est-à-dire un article publié dans un journal pouvait très bien être republié de manière légale, avec le consentement de l'auteur et de l'éditeur original, dans un autre magazine, dans une autre revue appartenant à la même organisation. Et ces organisations pouvaient très bien ne pas être très formelles. Ça pouvait même pas être des associations, mais juste des groupes qui se permettaient de rediffuser entre elles. Donc il y a tout un... Voilà, et maintenant on a les licences Creative Commons, c'est un peu facile. On a Wikipédia, on a tout ça. Oups. Oula, désolé. On a tout ça, mais c'est pas... Pour l'époque, c'est vraiment créateur et générateur d'une dynamique. Et donc le mouvement hacker, il se rattache un peu à tout ça. Notamment, il y a deux grandes facs à l'époque qui sont importantes pour le mouvement hacker. Notamment, le MIT, ça on en a parlé, c'est de là que vient un peu ce terme-là de hacker. Mais en plus de ça, il y a également la fac université de Berkeley, en Californie. Et à Berkeley, il y avait deux choses qui se passaient. Globalement, dans les années 60, il y a eu Unix, BSD Unix, et puis BSD tout court par la suite. Et puis, donc un système informatique libre, qui n'était pas encore vraiment considéré comme un logiciel libre, parce que la formalisation du terme de logiciel libre viendra par la suite, mais le terme logiciel libre arrivera après, mais le concept était déjà là, c'est-à-dire un code ouvert et puis réutilisable. Donc BSD Unix, un petit peu l'ancêtre du mouvement logiciel libre. Et puis également pas mal d'études sur le LSD, notamment Timothy Leary qui filait du LSD à ses étudiants et pour voir un petit peu les effets du LSD et les états altérés de la conscience, ces études un petit peu là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de contre-culture hacker, parce que le mouvement hacker est vraiment très très lié à la contre-culture américaine des années 50-60. C'est de là qu'il est né. C'est là que sont ses racines. Burroughs, Kerouac, etc. vont avoir une influence quand même assez déterminante sur tout ce qui va se passer par la suite. Et puis de toute façon, Timothy Leary, dans les années 80, va écrire un bouquin qui s'appelle Chaos et Cyberculture. Un bouquin qui est assez remarquable, avec des interviews de William Gibson, etc. Il y en a quelques exemplaires à la bibliothèque de Lille 3 pour celles et ceux qui sont encore étudiants ou étudiantes et qui ont accès donc à la bibliothèque universitaire de l'université Lille 3. Il se trouve à la bibliothèque des bibliothèques au rez-de-chaussée. En passant. Puis il ne faut pas oublier que Berkeley, c'est en Californie. Il y a une ville aussi importante, c'est San Francisco. San Francisco, c'est dans la banlieue de San Francisco que se trouve la Silicon Valley. Et San Francisco, en 67, c'est là que fut célébré le Summer of Love. Donc l'avènement de la musique psychédélique, les drogues, encore une fois, etc. De tout ce qui se passe dans ces années 60, il faut également retenir un petit peu les touche-à-tout de tout ça. C'est-à-dire que les informaticiens de l'époque étaient à la fois des matheux et en même temps des électroniciens. C'est donc pas super étonnant de voir que le premier terrain d'expérimentation de cette génération-là a été le réseau téléphonique, avec les Freakers, avec la Blue Box. Dispositif de fraude au télécom. Alors Steve Wozniak, on va en parler un petit peu. Steve Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple, qui a rencontré Steve Jobs dans le cadre d'un club qui s'appelait le Homebrew Computer Club, qui est un groupe plus ou moins assimilé au mouvement hacker. C'est des constructeurs, des personnes qui construisaient les ordinateurs chez eux à leur maison. Steve Wozniak, c'était un freaker au départ, donc une personne qui explorait un petit peu les réseaux téléphoniques, et il avait une Blue Box, donc un dispositif de fraude, un dispositif de prise de contrôle à distance de centrales téléphoniques. Et sa Blue Box, en fait, elle est aujourd'hui exposée dans un musée, parce que ça restait quand même une prouesse technologique. Internet également. Internet, parlons-en. Internet, c'est quoi ? C'est un certain nombre de scientifiques qui, dès les années 50, commençaient à parler de cette histoire de liberté de circulation de l'information et de réseau informatique global, et qui ont fini par aller voir les militaires, qui étaient dans une logique de guerre froide, qui étaient dans une logique de chaque centime dépensé devait l'être pour du nucléaire, etc., etc. Et ils leur ont parlé d'un réseau global. Les militaires n'étaient pas vraiment convaincus au départ. Et puis, il y a l'argument d'un réseau de communication décentralisé, c'est-à-dire que plusieurs nœuds, enfin tous les nœuds du réseau sont reliés chacun avec tous les autres, ou avec plusieurs autres, ce qui fait qu'en fait, en cas d'attaque nucléaire avec un champignon sur une base militaire, le réseau continue quand même à fonctionner parce qu'il y a d'autres chemins pour faire passer l'information. C'est le début d'ARPANET, qui est en fait l'ancêtre d'Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément... c'est un truc qui a été monté et financé par des militaires, mais qui a été créé et réalisé par des scientifiques qui avaient une vision qui était un petit peu... qui était vraiment dans cette idée de révolutionner le monde avec la société, de faire entrer les sociétés occidentales dans le monde de la société de l'information. Et ça, c'est clairement, si vous voulez, les bases du mouvement hacker. Alors, ça fait déjà une demi-heure que je parle.
Ouais. On fait une petite pause.
On va faire une petite pause. D'accord. Une petite pause musicale, et puis on revient après pour les années 80 et puis 90. On va reparler de frac, et puis on va reparler un petit peu de tout ça par la suite.
Voilà.
À tout de suite.
Restez avec nous.
For a bit of occasion.
Vous pouvez nous joindre au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur lille.dg-sc.org/random.
Oh, viens. Tu t'amuseras. Je te le promets.
Voilà, donc vous venez d'entendre, c'était Panic, le titre c'est Saturday Bam sur Lost No Good Configuration. Voilà, voilà.
Et toujours de la musique libre. Alors, on va continuer un petit peu donc, sur l'histoire du mouvement hacker. J'ai passé beaucoup de temps sur les années 60, etc. parce que c'est extrêmement important pour comprendre la suite. Alors, dans le mouvement hacker, il se passe pas vraiment grand chose dans les années 70. Par contre, là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est les années 80, qui sont vraiment une période charnière dans le mouvement. En fait, en 83, il y a un auteur américain qui s'appelle William Gibson et qui publie Neuromancien. Neuromancien, ça raconte l'histoire d'une intelligence artificielle qui qui contacte un hacker, etc., pour pouvoir se libérer et puis vivre sur le réseau. Donc il y a toute cette histoire de réseau informatique global, de pirates informatiques, de biotechnologie, de grosses multinationales qui dirigent le monde et qui vont former en fait le socle de ce qu'on a appelé le mouvement cyberpunk. qui a existé jusqu'à la fin des années 80. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les personnes qui ont vu le film Matrix, la trilogie Matrix, ben le concept de matrice et puis toute l'esthétique, etc. C'est une esthétique qui est clairement cyberpunk. Et d'ailleurs, Matrix, c'est un plagiat ultra commercial et très hollywoodien de ce qui s'est écrit dans le mouvement cyberpunk, que ça soit du côté de Bruce Sterling, que ça soit du côté de William Gibson ou d'autres auteurs du même mouvement de l'époque. On mettra quelques références dans le résumé sur le site de l'émission. Alors, en 83, donc on a le mouvement cyberpunk, qui est vraiment un mouvement technophile, mais qui en même temps décrit un univers assez noir et assez dur de ce qu'induit un petit peu la société capitaliste avec la prise de contrôle du pouvoir par des grosses multinationales, etc. Et les hackers vraiment vont se reconnaître, le mouvement hacker va vraiment se reconnaître dans ça, et il va y avoir en fait un début de politisation du mouvement. D'autant que commencent dans les années 80 à apparaître les premiers vrais gros groupes de hackers qui commencent à avoir des revendications politiques, c'est-à-dire à investir le champ de la lutte sociale dans leurs revendications. Alors notamment en Allemagne, avec la création du Chaos Computer Club, qui date de 1984, c'est-à-dire à l'époque du mur de Berlin. Il y a des personnes qui ont créé des groupes locaux, et puis une structure globale, une fédération de tous ces petits groupes locaux, pour justement parler de toute la thématique hacker et nouvelles technologies, liberté de circulation de l'information, protection de la vie privée, etc. Chaos Computer Club, qui existe encore de nos jours, hein, qui a fait parler de lui il y a quelques années en publiant les empreintes digitales du ministère de l'Intérieur, enfin du ministre de l'Intérieur de l'époque, puisqu'il voulait faire passer des lois sur la biométrie et le contrôle ADN, etc. Une organisation qu'on n'a pas en France et qu'on peut un peu regretter. On va en reparler juste après. C'est aussi en 84 qu'est fondé le magazine 2600. Je pense qu'on fera un sujet un jour un petit peu sur 2600, est-ce que c'est exactement les meetings 2600, etc. Et en 85, qui est fondé le magazine électronique FRAC, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est aussi l'époque où les États commencent à s'armer d'un arsenal répressif contre le piratage informatique, voyez-vous. En France, la loi Gaufrin du 5 janvier 88. C'est également l'époque en fait où Richard Stallman formalise le concept de logiciel libre, donc à savoir les quatre libertés, etc., la licence GPL, le projet GNU, etc. Donc tout ça est lié en fait à une époque qui est vraiment une époque charnière des années 80 et qui va commencer en fait à voir apparaître vraiment divers courants internes au mouvement hacker. Des personnes qui sont plutôt dans l'état d'esprit libertaire et politique, d'autres personnes qui sont plus dans l'idée technique, logiciel libre, etc. D'autres qui sont dans une vision très universitaire et très ancienne école, vraiment restée aux valeurs des années 60, etc. Le mouvement hacker, en fait, il se divise par la pluralité des points de vue, puis par également les diversités locales, parce que le mouvement hacker, il apparaît partout dans le monde. Mais que localement, les gens n'ont pas les mêmes préoccupations. Donc tout ça, en fait que le mouvement hacker, il est un peu compliqué à comprendre de nos jours, puisqu'il n'y a pas vraiment d'études complètes et exhaustives un petit peu sur tous ces mouvements qui sont apparus à cette époque-là. Alors, pour parler un petit peu de la France et revenir à un échelon un peu local, et je pense qu'on va arrêter un peu après, parce qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin, parce qu'on n'aura pas le temps et tout, et que j'ai encore parlé pendant trois quarts d'heure, et que c'est pas bien. On va parler un petit peu de la France. Alors, en France, en fait, le mouvement hacker, il est quasi inexistant. Il est quasi inexistant. Pourquoi ? Parce que dans cette période charnière des années 80, on va prendre un certain nombre de décisions, enfin l'État français va prendre un certain nombre de décisions qui vont être celles, qui vont tout simplement casser le mouvement hacker en France. La première des choses, c'est que Mitterrand va vouloir absolument limiter cette histoire d'Internet, tout ça, donc il va promouvoir le Minitel, qui est une technologie centralisée, qui est une technologie facile à contrôler, qui ramène énormément de pognon à l'opérateur historique et à l'oligopole de France Télécom, et à préserver vraiment le statu quo là-dessus, c'est-à-dire pas vraiment avoir Internet. Le premier fournisseur d'accès à Internet, avant Orange, avant Wanadoo, avant tous ces trucs-là, ça va être des associatifs, ça sera French Data Network, dont on a parlé dans l'émission précédente. Et puis ben, également à casser le milieu hacker. Alors casser le milieu hacker, ça s'est fait comment? Ben, tout simplement la DST avait en fait dans ses bottes depuis 1982 un monsieur qui s'appelle Jean-Bernard Condat. Et Jean-Bernard Condat va donc fonder le Chaos Computer Club France en liaison directe avec la DST. Le but du jeu, en fait, est de rassembler toutes les personnes actives dans le milieu hacker de l'époque, de les ficher, et de les empêcher de nuire aux intérêts de l'État. Concrètement, tout le monde va se faire arrêter au bout d'un certain temps, et l'État français aura réussi à casser durablement toutes les personnes qui étaient dans le milieu hacker à un moment donné, dans les années 80 et début des années 90, et du coup, le milieu hacker français va toujours fonctionner dans la peur. La peur de la police, etc. Et puis, du coup, il n'y a aucune revendication sociale et politique qui va pouvoir voir le jour, parce que tous les gens qui vont rester dans le milieu hacker vont se cacher. Le milieu hacker va rester très 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 fermé jusqu'à cette époque-là. Alors, Jean-Bernard Condat, pour voir un petit peu jusqu'où ça va cette histoire, Jean-Bernard Condat, donc on l'a cité nommément en tant que groupe Dégénéré Science dans le texte qu'on a publié cet été au mois d'août et qui s'appelle donc le Manifeste pour la création d'une organisation hacker en France. Jean-Bernard Condat a envoyé des courriers recommandés à toutes les personnes qui ont rediffusé ce document sur Internet. On a publié un communiqué là-dessus pour dire que de toute façon cette histoire elle est parce qu'il voulait qu'on retire son nom, etc. Diffamation, injure publique, machin. Alors qu'en fait, non, c'est une histoire vraie. Il y a son vrai nom, il y a des interviews, des articles de journaux, etc. qui vont le prouver. Voilà. Bon, il va falloir qu'on arrête là. On va passer à l'agenda. Putain, j'ai pas fait tout ce que je voulais. C'est un peu dommage. Donc on va faire l'agenda vite fait, tu le fais ?
Non, vas-y.
Non, bon, d'accord. Donc l'agenda, et désolé, on n'a pas parlé de tout ce qu'on voulait faire et tout. Une heure, c'est décidément trop court. Donc alors, l'agenda, le super agenda de l'émission Random. Donc mercredi 31 et jeudi 1er avril, le Forum international sur la cybercriminalité, c'est à Lille, Lille Grand Palais. Et puis bon, c'est là que tous les flics vont parler de comment faire la censure en France et ailleurs. Le lendemain de la fin du FIC, le vendredi 2 avril, ce sera le meeting 2600 Lille, 19h30 Grand Place de Lille, ouvert à toutes et tous, et vous aurez plus d'infos sur www.2600lille.org. Le même soir, il y a une soirée Big Mother versus Sister Resist. Alors ça se passe donc au cinéma Libride, enfin à Libride. Donc il y aura une soirée, donc une lecture électro-rock avec les chiennes savantes, une rencontre avec l'auteur de science-fiction Alain Damasio, et puis la projection du film THX 1138 de George Lucas, réalisateur de Star Wars. Du 8 au 10 avril, il y a le Hackito Ergo Sum, conférence hacker à Paris. Faut y aller, c'est des gens bien, c'est le Templab et le DNS Lab qui organisent ça, de Hackerspace parisien. Du 15 au 17 avril, le Brace Anthropic Congress à Rennes, c'est encore des copains à nous, on a eu leur gars au téléphone pendant l'émission de Random, il y a deux ou trois émissions, il y a un petit mois je crois. Et puis du 30 avril au 2 mai, les contorsions technologiques, encore organisées par des copains, du Hackerspace La Suite Logique, à Paris dans le 13e. Je pense qu'on a débordé.
Non, on est très bien là.
On est très bien là. Voilà. Eh bien écoutez, bonne soirée à vous.
On vous laisse avec Chou Papimento.
Votre émission électro préférée.
Et à dans 2 semaines.
Et à dans 2 semaines.